Chapitre 16. Les événements de la nuit étaient tels que Juliette avait complètement oublié les braconniers et le fait qu'elle était à 10 kilomètres de chez elle. Cependant, l'aube pointait dangereusement à l'horizon. Parviendrait-elle à diriger Jamie, qui après tout n'avait rien à cheval bien dressé, jusque chez elle? En tout cas, il était hors de question qu'elle quitte la vallée secrète s'il y avait le moindre risque que les chasseurs soient toujours à la poursuite de la girafe. Elle jeta un dernier œil sur les peintures, puis se précipita vers la sortie avant de dévaler les marches rocheuses, non sans ajouter au désastre de son jean déjà couvert de mousse. Le tunnel lui sembla plus long qu'à l'aller, et elle fut soulagée de déboucher enfin dans la vallée, calme, reconnaissant sur le champ le cri de bienvenue de Jamie. Elle courut vers elle, enfouit son visage dans son pelage velouté et se fit dorloter quelques instants. Puis elle ralluma sa torche et commença à se diriger vers la sortie de la vallée. Elle monta sur un rocher et observa le paysage au-delà de la fissure. Le feuillage touffu cachait une partie de la vue. Seule une ouverture de la taille d'un timbre laissait entrevoir un bout de ciel qui vibrait de cette lueur bleue annonçant les premières heures du jour. Elle réussit même à distinguer une partie du capot du vieux pick-up Ford des braconniers. Il était vide. Soudain, elle eut une idée. Comme souvent ces derniers temps, c'était une idée un peu folle, mais peut-être la solution idéale. Elle allait demander au braconnier de la ramener chez elle. Elle retourna aux côtés de la girafe. L'animal inclina délicatement la tête contre elle et Juliette la rassura. « N'aie pas peur, ma belle amie, je reviendrai et nous nous reverrons. » Et elle ajouta, légèrement intimidée, « Je t'aime. » À l'entrée de la vallée, elle se glissa en se tortillant à travers les plantes grimpantes qui s'accrochaient et alla s'allonger au pied de l'arbre sinistre, puis elle attendit, l'oreille aux aguets. Elle entrevit deux points lumineux vacillants. C'étaient les braconniers qui rentraient. Un instant, elle sentit ses membres faiblir et toutes ses forces l'abandonner, comme la nuit de l'incendie. Puis elle se ressaisit et se propulsa en avant. Elle se précipita sur le pick-up et monta à l'arrière. Il y avait une toile de bâche jetée en boule, juste derrière la cabine du chauffeur. Elle plongea dessous et crut étouffée tant la bâche sentait mauvais. Plus un geste. Elle osait à peine respirer. Elle entendit des bruits de pas sur le sol caillouteux. La camionnette oscilla et les deux hommes montèrent en claquant la portière. Ils ne disaient pas un mot. Juliette sourit, en dépit de sa position inconfortable. Elle les voyait déjà écumant de rage, furieux d'avoir passé la nuit à poireauter au milieu des bestioles visqueuses et rampantes. Avec un peu de chance, ils seraient dégoûtés à vie de la chasse. La camionnette fit un bond en avant avec un épouvantable grincement et se mit en route. L'idée de Juliette était d'attendre que les deux hommes ralentissent et descendent pour aller ouvrir un portail ou couper un bout d'enclos, et elle bondirait hors de la camionnette. En espérant qu'elle ne se blesse pas, elle n'aurait plus qu'à rentrer à pied. La maison ne pouvait être bien loin. Cependant, elle voulait voir à quoi ressemblaient les braconniers. Toujours cachée par la bâche, elle se redressa, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que ses yeux arrivent à la hauteur du bas de la cabine couverte de poussière. Les premières lueurs roses de l'aube apparaissaient, et Juliette comprit pourquoi elle avait eu du mal à distinguer leurs traits quand ils étaient au bord de l'eau. Ils avaient le visage couvert d'une cagoule noire et portaient des chemises grises à manches longues. Tout ce qu'elle vit d'eux était leurs mains, dont les grosses pattes du chauffeur agrippées au volant, et celles de son complice, velu, qui tenait son fusil serré contre lui. Elle se rallongea. Un des deux hommes était noir, avec un tatouage de tigre sur le poignet. le second était blanc. Cela dit, elle n'était pas beaucoup plus avancée. Comment savoir si c'était eux qui avaient tué Henri Thomas et les deux girafes? Tout ce qu'elle pouvait en conclure, c'est que deux hommes de couleurs différentes pénétraient à l'intérieur de la réserve la nuit pour y chasser les animaux. Une petite ampoule s'alluma dans le fond de sa tête. Et si la clé du mystère était plutôt à chercher du côté de la girafe que de celui des braconniers? D'après Tendai, la police et tout le monde à Sawumbona croyaient que les braconniers traquaient des girafes ordinaires, parce que c'était des girafes ordinaires qu'on avait retrouvées mortes. La plupart pensaient que la girafe blanche était un mythe. Mais si c'était la girafe blanche que les braconniers pourchassaient, cela changeait tout. Juliette s'agita sous la bâche. Tout s'expliquait. Si les braconniers étaient au courant de l'existence de la girafe blanche depuis sa naissance, ou presque, c'est qu'ils avaient des liens très proches avec la réserve. Ils étaient soit amis, soit parents avec quelqu'un qui y travaillait, ou eux-mêmes y travaillaient. Elle savait qu'Alex s'était rapproché de son grand-père l'année précédant sa mort, et qu'on lui avait promis une place de gardien si quoi que ce soit arrivait à Henri Thomas. En outre, non seulement Alex avait directement menacé Juliette et tiré sur le coudou comme si c'était un jeu, mais il lui avait clairement expliqué le prix de la girafe blanche. Il n'avait donc aucun doute sur son existence. Mais c'était trop évident pour faire de lui un suspect. Elle se souvenait des séries policières préférées de sa maman. Le méchant n'était jamais le vilain postier qui boitait, ni le maniaque qui adorait les armes, encore moins la vieille fille excentrique pleine de verrues. C'était toujours la personne la plus inattendue. Le médecin tiré à quatre épingles, la mère au foyer bien sous tout rapport ou le nouveau pasteur. Or, la personne la moins susceptible de braconner ou de faire du trafic était, Juliette culpabilisée à l'idée même d'y penser, était Tendai. Ne lui avait-il pas expliqué qu'il était chez ses parents dans le nord du pays au moment de l'assassinat? Or, qu'est-ce qui prouvait qu'il s'était absenté? Par ailleurs, s'il finissait toujours par perdre la trace des braconniers, c'était peut-être parce qu'il ne la suivait pas jusqu'au bout. Non, ce n'était pas possible. Juliette ne pouvait pas y croire. Elle avait une confiance absolue en Tendai. Le pick-up ralentit. Elle se prépara à sauter. Elle était terrifiée à l'idée que le chauffeur ou son complice accroché à son fusil la voie dans le rétroviseur. Elle eut de la chance. Les braconniers braquèrent brusquement pour éviter un springbok et elle put se jeter sur le côté. Elle atterrit sur un carré d'herbe mouillé de rosée et couvert de bouses d'éléphant, ce qui eut le double effet d'amortir le choc et de la mettre hors de leur vue. En revanche, pour l'état de son pantalon, elle se redressa et comprit qu'elle s'était tordu la cheville et pas cassé la jambe, heureusement. Elle leva les yeux. Les braconniers avaient disparu. On n'entendait plus que le bruit déclinant du moteur de leur pick-up. Elle observa les alentours pour vérifier qu'il n'y avait pas d'animaux rôdant à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent, quand elle aperçut le panneau d'entrée de la réserve. Elle n'était donc pas trop loin du chemin qui menait chez elle. L'aube se déployait telle une longue bannière écarlate et soyeuse, et le concert des oiseaux annonçait une magnifique journée ensoleillée. Portée par la splendeur du petit matin et la fraîcheur vivifiante de l'air, Juliette parvint à courir en boitillant jusqu'aux portes de la réserve. 10 minutes plus tard, elle était rentrée. Cependant, elle se faisait du souci pour Jamie, car elle avait du mal à oublier que toutes deux avaient échappé de peu au tir des braconniers. Environ 2 heures plus tard, Juliette était douchée et en uniforme. Elle était sur le point de mettre son jean dans la machine à laver en se réjouissant d'avoir la maison pour elle toute seule, quand elle perçut un bruit de moteur qui ressemblait à celui d'une voiture de course. Sa grand-mère revenait de Somerset West. Elle se précipita dans la cour, mais quelle ne fut pas sa surprise? C'était la police, et il y en avait deux carentiers. Puis elle reconnut les braconniers au milieu de la pelouse, ligotés comme deux méchants dans un western. Ils n'avaient plus leur cagoule et arboraient une expression plus qu'amère. C'était bien eux, elle ne pouvait pas se tromper. Plus loin dans l'allée, elle aperçut Tunday, Alex et sa grand-mère en pleine discussion. Mais dès qu'ils la virent, tous trois se séparèrent. « Juliette, oh mon Dieu, heureusement que tu n'as rien !» s'écria sa grand-mère en se précipitant vers elle. « Je viens de rentrer et je suis tombée sur la police qui a envahi tout Sawumbona. Alex a réussi à mettre la main sur les braconniers qui nous empoisonnent la vie depuis plus de 2 ans. « Alex ?» réagit aussitôt Juliette. « Alex, oui !» répondit sa grand-mère avec un air de reproche. « Il a été extrêmement courageux. Il a tiré sur leurs pneus en les voyant quitter la réserve, puis il a appelé sur son talkie-walkie. Il a même réussi à neutraliser un des hommes à terre en attendant que Tunday arrive et l'aide à coincer le second. « Ce n'était rien !» s'exclama Alex. « Vous m'avez embauché pour ça, non ? Si seulement j'avais pu les attraper plus tôt !» Il passa le bras autour de l'épaule de Tunday et ajouta « Et jamais je n'aurais réussi sans l'aide de Tunday. » Juliette croisa le regard de Tunday qui détourna aussitôt le sien. « Bon, on ferait mieux de t'accompagner à l'école, » interrompit sa grand-mère en jetant un coup d'œil sur sa montre. « Prends tes affaires, je te dépose. » Juliette s'efforça de faire face à ce revirement de situation. Mais elle ne put s'empêcher d'afficher sa mauvaise humeur en allant chercher son déjeuner et son sac à dos. Alex, un héros ! C'était trop injuste, trop rageant. Comment sa grand-mère pouvait-elle se laisser aveugler par cette espèce de gnome aux cheveux blonds platine ? Elle entendit des pas juste derrière elle. « Juliette ! » appela Alex. « Attends ! » Elle se retourna et le foudroya du regard. Mais au lieu de répondre par son expression arrogante habituelle, il prit un air de toutou servile. « Juliette, je te dois des sacrées excuses. J'étais tellement omnubilée par l'idée de mettre la main sur les braconniers que je crois que ça a affecté ma capacité de jugement. Je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre jour quand je t'ai accompagnée à l'école. Je t'ai menacée. C'est impardonnable de ma part. J'avais peur que quelqu'un d'étranger, qui ne connaît pas bien Sawumbona, ne ralentisse mes recherches. En tout cas, je te demande de m'excuser. Si je peux te rendre service en échange, n'hésite pas à me faire signe. » Il mit la main dans sa poche et sortit une jolie plume de Martin Pêcheur. « La paix ? » demanda-t-il. Juliette prit la plume à contre-cœur, sans un mot. Elle avait encore à l'esprit la balle qui avait frôlé la tête de Tunday et le regard éperdu du coudou. « Oui, je sais à qui tu penses, » reprit Alex en faisant une grimace. « Au coudou. Pourquoi je lui ai tiré dessus, c'est ça ? Crois-moi, ça m'a fait mal. Mais j'en étais arrivé à soupçonner tout le monde et je voulais faire un test. » Je voulais voir comment Tunday réagirait. Heureusement, il a réagi comme un ami des bêtes. De ce côté-là, je suis rassurée. Sauf qu'on ne sait jamais. Quand il y a de grosses sommes d'argent en jeu, les gens les meilleurs peuvent céder à la tentation. Juliette n'était pas entièrement convaincue. Pourtant, elle réfléchit. Et finalement, conclut que le plus sage était de ne faire confiance à personne et de ne rien dire. Ses aventures de la nuit passée lui avaient appris une chose : Jamie et elle étaient seules.